8h41, c'est la revue de presse d'Adrien Bossard. Bonjour Adrien.
Bonjour Laetitia.
Ce matin dans la presse, il est question de quête identitaire.
Exactement. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais qui je suis. Enfin, je crois. Je m'appelle Adrien Bossard. Je suis né à Châtellerault, dans la Vienne, au nord de Poitiers, il y a 26 ans et 5 jours. J'ai un père, une mère, un frère, un neveu, des cousins, beaucoup de cousins, des oncles, des tantes, des grands-parents, bref, une famille. Mais j'ignore ses origines. Pourquoi ce nom bien franchouillard, Bossard? D'où ça vient? Qui étaient mes aïeux? J'aurais pu chercher, mais non. Jean-Michel, lui, l'a fait. Il a remonté le fil de son histoire, qu'il raconte aux Parisiens Week-end. Le Vendéen revendique 32 000 cousins, rien que ça. Bon, évidemment, plus ou moins éloignés. Jean-Michel en a réuni plus de 4500 un soir d'été 2012. Une réunion de famille gigantesque. Il a dû monter un barnum de 3600 mètres pour l'occasion. Cette passion pour la généalogie, il la cultive depuis ses 11 ans. Un homme en costume est venu frapper à la porte de la ferme familiale. Un cousin de mon grand-père venait de décéder et cet homme recherchait les héritiers. Il a sorti de sa mallette un arbre généalogique. Cela m'a fasciné. Alors Jean-Michel commence le sien, interroge ses parents, enfourche dès qu'il peut sa mobilette pour consulter les archives de la mairie. 40 ans plus tard, son arbre a bien grandi. Il remonte jusqu'au 18e siècle, un retour 350 ans en arrière. À l'image de Jean-Michel, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la généalogie. De plus en plus jeunes, nous apprend le Parisien Week-end. Moyenne d'âge, 48 ans contre 70 il y a encore deux décennies. Car c'est aujourd'hui plus facile. Les archives sont numérisées. Il y a les réseaux sociaux et les sites spécialisés. Victor, Marine et Frédéric, tous la trentaine, témoignent de leur soif de connaissance, une pratique tournée vers soi, destinée à mieux se comprendre.
Alors que d'autres, Adrien, cherchent seulement à savoir qui étaient leurs parents biologiques.
Passionnant et édifiant témoignage dans Le Parisien aujourd'hui en France de Neil et Noor. Ils sont frères et sœurs adoptifs, nés au Sri Lanka dans les années 80 et adoptés en France comme 1500 autres bébés à cette époque. Des bébés parfois volé ou même acheté. L'affaire fait scandale au Sri Lanka depuis les révélations de journalistes il y a peu. Le ministère de la Santé reconnaît l'existence, il y a 30 ans, de fermes à bébés où les nourrissons étaient regroupés avant d'être présentés aux familles adoptives par des mères actrices, des fausses mères, une fraude rendue possible par l'absence d'encadrement éthique avant 93. Neil et Noor sont-ils dans ce cas-là? Ils ne le savent pas. Ils doutent de tout, de ce que leurs parents adoptifs leur ont toujours dit. Peut-être, peut-être y a-t-il une autre histoire, plus sombre. La vérité, ils vont la chercher ensemble, explique le Parisien. Le frère et la sœur partent au Sri Lanka demain, sur les traces de leurs parents biologiques, avec le désir de reprendre leur destin en main, de revenir différent, plein de certitudes, savoir si oui ou non, leur adoption était un choix de leur mère biologique. Les secrets de famille, à la une aussi de l'Obs, tout secret est-il bon à entendre? Ils sont plusieurs à témoigner dans l'hebdomadaire de ces lourds secrets cachés des années et qui finissent par être révélés ou découverts. Exemple d'Éric, la cinquantaine, bien décidé à savoir qui était réellement son grand-père, un homme qu'il n'a jamais connu. Sa grand-mère, Jeannette, refusait d'en parler, elle avait trop honte et pleurait tout de suite à la question « qui était papy ?». Mais un jour, elle craque et finit par lâcher un nom, Roger R. Eric entame des recherches et découvre 10 ans plus tard la vie peu morale d'un grand-père qu'il n'a du reste jamais considéré comme tel, un collabo sous l'occupation nazie. L'Obs ressort un vieux rapport de police, ses intentions personnelles sont de combattre uniquement les juifs et les communistes, peut-on lire. Roger R. est condamné à mort en 46 pour collaboration avec l'ennemi, mais il échappe finalement à la sentence et réussit des années plus tard à sortir de prison. Sa fin de vie est chaotique, raconte l'Obs, une vie de petit délinquant dans la rue jusqu'à ce que son corps soit retrouvé en 66 dans les Côtes d'Armor. De cette histoire familiale, le temps a dissous la honte, celle précisément qui a scellé le secret. Mais Eric comprend mieux le silence de sa grand-mère, aujourd'hui décédée.
À l'étranger, le gouvernement italien est lui aussi en pleine crise identitaire.
Il s'est cherché pendant 14 mois, mais ne s'est jamais réellement trouvé. La coalition au pouvoir est en train de valser. Le contrat négocié à la va-vite il y a un an entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue est à la fois trop flou et trop équivoque sur de nombreux points pour cimenter une alliance durable, estime le Parisien. Il faut donc une nouvelle identité, une vraie, selon Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, qui réclame des élections en octobre. Le chef de la Ligue est en position de force à lire Le Monde face à un Luigi Di Maio, patron du mouvement 5 étoiles, moins charismatique et de plus en plus esseulé. Le Parisien rappelle que Salvini a fait passer l'essentiel de son programme, notamment sur la question migratoire, tandis que Di Maio n'a pu qu'imposer le revenu de citoyenneté moyennant certaines concessions. Les objectifs de Matteo Salvini sont clairs à en croire Libération. Prendre d'assaut le palais Chigi, siège du Conseil italien, et gouverner sans entrave et encombrants alliés. Matteo Salvini abat ses cartes et n'avance plus masqué.
Ne plus avancer masqué, est-ce d'ailleurs ça la solution pour enfin se retrouver, ou plutôt se trouver, à l'encontre de l'adage pour vivre heureux, vivons cachés?
Je vais faire original, oui et non. Deux réponses, deux histoires, et je vous laisse juger. D'abord, celle de l'écrivaine Émilie Blaine, un pseudonyme évidemment, auteur à succès, 500 000 exemplaires vendus selon son éditeur Harlequin sur l'ensemble de ses œuvres, des livres érotiques. Son portrait est à lire dans Libération ce matin. Cadre à la SNCF dans la vie courante, la trentenaire a longtemps caché à son entourage sa deuxième activité. Elle aime, dit-elle, brouiller les pistes et ne veut surtout pas porter préjudice à sa famille, d'autant que son mari travaille au ministère des Armées. Mais il faut bien assurer la promotion des livres, écumer les différents salons, se prêter au jeu des dédicaces. Alors au bout d'un moment, Émilie Blaine finit par accepter de montrer son visage sans pour autant révéler sa véritable identité. Une double vie qu'elle veut cultiver. Encore un moment, pas question de choisir entre l'une ou l'autre. Les deux vies se nourrissent mutuellement et la nourrissent. Enfin, l'histoire de Sandra, 49 ans, dans les colonnes de la Nouvelle République des Pyrénées. Il y a encore 3 ans, Sandra était un homme. Elle s'appelait Wilfried, champion olympique de canoë-kayak en 96 à Atlanta. Femme dans sa tête depuis toujours, elle met plus de 40 ans à l'accepter et décide d'entamer la transformation de sexe pour ne plus se cacher, ne plus se mentir. Aujourd'hui, dit-elle, je suis sûre d'être dans le bon corps. Il n'y a pas de regret possible à avoir lorsqu'on est enfin soi-même. En quête d'identité toute sa vie, elle s'est trouvée pour de bon.
Merci Adrien Bossard, c'était la revue de presse.